Bonjour, bonjour à chacun, à chacune. C'est un plaisir encore pour moi d'être avec vous ce matin et nous allons ouvrir la Bible maintenant encore pour nous plonger dedans et donc poursuivre notre série de prédications sur la lettre de Paul aux Philippiens. Mais avant, j'aimerais vous poser une question. En qui placez-vous votre confiance ? En qui placez-vous votre confiance ? Un sondage publié en fin d'année dernière par l'Institut Ipsos révèle quels sont les métiers qui inspirent le plus confiance et ceux, à contrario, qui inspirent le moins confiance aux Français. Alors, je ne sais pas à quel métier vous penseriez, mais les premiers métiers, voilà les métiers qui inspirent le plus confiance aux Français. On retrouve pêle-mêle les médecins, peut-être un impact Covid en plus par rapport à ça, les scientifiques, les militaires, les enseignants, les policiers. Voilà les cinq catégories de métiers auxquels les Français font le plus confiance. À l'autre extrême, parmi les professions les moins dignes de confiance d'après les Français, on a les publicitaires, les politiciens, les journalistes, les banquiers et les prêtres. Les prêtres. Je ne sais pas si vous faites plus confiance à votre médecin ou aux policiers qu'aux journalistes ou aux banquiers, mais en tout cas, voilà ce que dit Ted Tripp, un auteur chrétien, à propos de cette question. En qui placez-vous votre confiance ? Il écrit dans un de ses livres, « En tant que pasteur, il m'arrive souvent d'entendre quelqu'un me dire, peut-être c'est une phrase qui fera écho dans votre propre vie, « J'ai vraiment du mal à me confier en Dieu dans cette situation. » Je demande alors systématiquement, « Mais alors, en qui te confies-tu » Lorsque nous ne plaçons pas confiance à Dieu, nous ne cessons pas pour autant de faire confiance. Nous plaçons cette confiance en quelque chose ou quelqu'un d'autre, un ami ou nos propres idées par exemple. En qui ou en quoi placez-vous votre confiance? Est-ce que vous avez pris la décision de placer toute votre confiance en Christ, en Dieu, ou êtes-vous tenté de vous confier en quelque chose d'autre, en quelqu'un d'autre? C'est justement toute la question du texte sur lequel nous allons méditer ce matin. En Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 11, dans la poursuite, encore une fois, de notre série de prédications. En qui ou en quoi placez-vous votre confiance? Et je vous invite à prendre vos Bibles. Le texte va être affiché, mais je vous invite vraiment à prendre vos Bibles pour pouvoir suivre la réflexion par la suite. Si vous avez ces Bibles-là qui sont devant vous, dans les bancs, c'est à page 772, Philippiens 3, les 11 premiers versets. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je ne peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis dépouillé de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Dans ce passage, Paul nous fait part, dans un premier temps, de trois choses dans lesquelles il a été tenté de placer sa confiance, à savoir sa religion, du verset 1 à 3, son héritage, du verset 4 au 5, sa moralité, du verset 5 au verset 6, avant de prendre la décision de placer toute sa confiance en Christ, du verset 7 au verset 11. Dans un premier temps, donc, Paul explique que nous pouvons facilement être tentés de nous confier, de confier nos vies dans notre religion, dans une religion. Tout de suite après avoir encouragé les Philippiens à se réjouir, verset 1, comme il le fait depuis le début de cette lettre, une lettre qu'on appelle souvent la lettre à la joie, c'est une thématique très forte dans cet épître de Philippiens. Donc tout de suite après avoir encouragé les Philippiens à se réjouir, Paul leur demande de rester vigilants, d'être sur leur garde. Il répète à 3 reprises au verset 2, « Faites attention ». Il veut attirer leur attention, justement. Il parle que cela doit contribuer à leur sécurité, au verset 1. C'est une question de sécurité, une question de sécurité nationale, ou plutôt ecclésiale, on va dire, qui est en jeu ici. Un danger menace les chrétiens de l'église de Philippe. Un danger qui, me semble, menace tous les chrétiens, et nous encore aujourd'hui, dans notre propre église. Le danger de se confier dans sa pratique religieuse, de confier sa vie dans sa pratique religieuse. En évoquant ce qui sont la cause de cette tentation pour les Philippiens, Paul ne fait pas dans la dentelle. Ses paroles sont très dures. On croit entendre comme des coups de fouet à chaque fois, qui claquent. Il les traite de chiens, de mauvais ouvriers, de faux circoncis. Rien que ça. Ces 3 expressions désignent une seule et même catégorie de personnes. Des faux enseignants à cette époque qui cherchent à forcer les chrétiens à se soumettre à la loi juive et leur enseigner que le salut dépendait aussi de leur observation des rites et des lois cérémonielles juives de l'époque. Paul les traite de chiens. À cette époque, il faut bien comprendre pourquoi il parle ainsi, le chien représentait généralement le symbole de l'impureté. Ce n'était pas le gentil toutou. C'est dans ce sens, par exemple, que Jésus dit en Matthieu 7, verset 6, de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Par cette injure, Paul pointe du doigt l'impureté du cœur et des motivations de ces hommes. Les Juifs, il faut savoir que les Juifs adressaient cette injure de chien généralement aux païens. Alors qu'ici, l'apôtre s'adresse à des Juifs, ce qui n'a pas manqué de choquer encore davantage ses premiers lecteurs. Il les traite de mauvais ouvriers. Paul souligne que ces hommes ne sont pas au service des autres, mais servent d'abord leurs propres intérêts. Ils sont préoccupés par le regard des autres. Ils cherchent un moyen de se vanter de leur service pour Dieu. Et enfin, il les traite de faux circoncis. Ces hommes imposaient le rite de la circoncision comme une tradition juive à respecter par les chrétiens, alors que les chrétiens étaient sous le régime nouveau de la grâce et plus sous le régime de la loi. Ils croyaient, ces hommes-là, que la circoncision était une condition nécessaire et obligatoire pour être sauvés. Bref, ces hommes se confiaient dans leurs pratiques religieuses. Il s'agit de légalistes, des assassins de la grâce, comme le dit Charles Swindoll dans un livre « Éveil à grâce », des assassins de la grâce. Ces personnes basent toute leur vie sur une religion fondée sur le principe du mérite. Si j'ai le bon comportement, si je suis un bon pratiquant, alors je mériterai. Il n'y a rien de très étonnant à cela. Comment fonctionne notre société encore aujourd'hui ? Sur ce même principe, le principe du mérite. Ça commence tout petit. C'est ce principe qui base notre fonctionnement. Si je travaille bien à l'école, j'ai peut-être une image. Au bout de 10 images, j'ai un petit cadeau, etc. Le principe du mérite. Alors, je ne dis pas que le principe du mérite est absolument mauvais en lui-même, mais si on veut appliquer le principe du mérite avec Dieu, alors on fait une fausse route, totalement. Naturellement, on va avoir tendance, parce que c'est dans nos gènes, parce que notre société nous emmène dans ce sens-là, de chercher à mériter quelque chose de la part de Dieu. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Paul repousse avec force la tentation de nous confier dans des rites, une forme ou une autre de religion, parce que ça serait une énorme erreur. À l'inverse du religieux qui cherche à mériter son salut à travers sa pratique religieuse, Paul décrit au verset 3 les vrais circoncis, c'est-à-dire le chrétien véritable, né de nouveau, enfant de Dieu. Celui qui n'est peut-être pas circoncis dans sa chair, mais qui est circoncis dans son cœur, comme Paul l'exprime dans un autre texte, dans une autre de ses lettres, en Colossiens 2, verset 11, il dit « C'est en Christ aussi que vous avez été circoncis, donc il parle des chrétiens, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à quoi cette circoncision ? À vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. L'œuvre de Jésus-Christ dans nos vies, c'est de dépouiller notre corps d'une nature pécheresse. C'est ça la vraie circoncision. Le vrai circoncis, d'après le verset 3, qu'est-ce qu'il fait, le véritable chrétien ? Il rend d'abord un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Un véritable chrétien a reçu le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il peut maintenant adorer Dieu et reconnaître son œuvre dans sa vie. Son culte personnel est d'abord spirituel. Et ce n'est pas un rituel basé sur des émotions, sur un cérémonial complexe, sur son propre mérite. C'est un culte spirituel. Un vrai circoncis, un vrai chrétien, place sa fierté en Christ. La foi chrétienne ne pousse jamais à un orgueil mal placé, mais on place notre fierté en Christ, dans l'œuvre de Christ. Et enfin, un véritable chrétien, c'est quelqu'un qui ne met pas sa confiance dans sa condition. Il ne se fait pas d'illusions sur lui-même, parce qu'il sait de quelle nature il est fait. Non, il sait qu'il ne mérite rien de la part de Dieu, que tout est grâce, tout est cadeau de la part de Dieu. Connaissez-vous Léon qui pratique une bonne religion ? Léon ne loupe jamais un culte, ni aucune autre réunion d'église. 15 ans de fidélité, sans un seul dimanche coupé. Pas même quand il avait la grippe, il est venu quand même. Il donne bien sa dîme à l'église, tous les dimanches matin. Il lit un chapitre de la Bible et prie 10 minutes chaque soir à 18h45 précise. Tout cela donne à Léon le sentiment d'être pas si mal que ça finalement. Est-ce que vous vous retrouvez dans Léon qui pratique une bonne religion ? Est-ce que comme Léon, vous êtes tenté de vous confier dans votre religion. Dans la suite du texte, entre les versets 4 à 6, Paul poursuit en nous livrant quelques détails de sa vie personnelle, dans lesquels il se confiait avant sa rencontre décisive avec Christ. Et dans son témoignage, il dresse une liste de 7 spécificités personnelles qu'il pensait autrefois être à son avantage. On peut diviser ces 7 spécificités en 2 catégories. Les 4 premières lui furent octroyées par naissance. C'est donc en quelque sorte le fruit de son héritage personnel. Et les 3 dernières lui ont été acquises par ses efforts. Et ça souligne sa moralité. Voyons d'abord la manière dont Paul a été tenté de se confier dans son héritage. Pour son époque, Paul possédait un sacré pédigré que beaucoup pouvaient lui envier. Au point qu'il peut affirmer au verset 4 en toute franchise: si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, Paul le peut encore plus. Pourquoi ? Parce que Paul a été circoncis le 8e jour. Paul a reçu la circoncision rituelle israélite qui était pratiquée sur tout garçon nouveau-né comme un signe de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. En expliquant qu'il a été circoncis le 8e jour, Paul souligne qu'il est juif de naissance. Et déjà ce fait le distingue de tous les juifs prosélytes venant du paganisme qui, eux, n'ont pas pu être circoncis peu après leur naissance, comme Paul. Paul est juif de naissance. Paul est de la race d'Israël. Étant né au sein de la race élue et admis par la circoncision dans l'alliance faite entre Dieu et le peuple d'Israël, Paul avait hérité de tous les privilèges qui appartenaient aux juifs, des privilèges qui sont détaillés en Romains 9, versets 4 à 5. Paul les cite, il les dit: c'est aux Israélites qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux, d'Israël, que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout. Paul précise qu'il est de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin était très estimée par les Juifs à cause de sa fidélité exceptionnelle à la lignée du roi David. Après la mort du roi Salomon, le fils de David, le royaume a été séparé en 2. La grande majorité des tribus d'Israël, 10 des 12 tribus, se sont alliées à une lignée de rois indépendante de David. Seules 2 tribus ont suivi la lignée de David. La tribu de Juda, dont David était issu, et la tribu de Benjamin. Donc être de la tribu de Benjamin, c'était avoir démontré une fidélité particulière. Peu d'Israélites aussi à cette époque-là pouvaient affirmer à quelle tribu exactement ils appartenaient. à cause de nombreux mélanges ethniques qui avaient eu lieu. Paul, lui, le pouvait. Enfin, il dit, Paul, qu'il est hébreu, né d'hébreu. La famille de Paul avait particulièrement tenu à conserver l'usage de la langue hébraïque, les coutumes traditionnelles juives, alors que beaucoup de juifs, à cette époque-là, ne savaient pas forcément parler la langue hébraïque et avaient adopté une culture gréco-romaine. Non, la famille de Paul, elle, était ferme dans ses positions et n'était pas tombée dans le compromis avec le paganisme. Paul avait donc toutes les raisons d'être fier de sa lignée, de son héritage. Aux yeux de la culture de l'époque, Paul n'était pas le premier venu. C'était un juif de sang pur, si on peut dire ainsi. Circoncis le huitième jour, bénéficiaire des promesses de Dieu au peuple d'Israël, issu de la tribu de Benjamin, parlant l'hébreu, fidèle aux traditions juives. Sans vouloir faire polémique et simplement pour donner une image, on peut dire de Paul que c'était le prototype de l'Arien plus blond que les autres. C'était ça, Paul. C'était un juif, mais pas comme tous les autres juifs. Plus juif que lui, il n'y en avait pas beaucoup. Paul pouvait se reposer sur un héritage exceptionnel, un héritage qui le mettait à part. Il pouvait, plus que n'importe qui ou presque, se confier dans cet héritage et se dire que finalement, il était fidèle à Dieu depuis toujours, grâce à son héritage familial. Fidèle à Dieu depuis toujours, vraiment ? Voici ce qu'écrit Roy Essien, un évangéliste britannique. Il raconte ce témoignage. Un jour, à l'issue d'une grande réunion d'évangélisation, je parlais avec une dame qui me dit qu'elle s'était avancée pour accompagner son fils de 16 ans. « Et vous ?» lui demandai-je. « Oh, moi, j'ai toujours été chrétienne. » Je compris aussitôt qu'elle ne l'avait jamais été. Personne n'est chrétien depuis toujours. Nous sommes plutôt pécheurs depuis toujours, séparés de Dieu, jusqu'à ce que la grâce divine nous sauve. Connaissez-vous Serge, qui a un bon héritage? Serge est né dans une famille chrétienne évangélique. Ses parents donnent beaucoup de temps à l'église. Toute sa famille, oncles, tantes, cousins, cousines, vont à l'église tous les dimanches. Toute son enfance, il a passé à l'école du dimanche et était le premier de la classe pour réciter les versets par cœur. Tous les soirs, il lisait sa Bible avec papa et maman. Tout cela donne à Serge le sentiment d'être finalement quelqu'un de bien, plutôt pas mal. Est-ce que vous vous retrouvez dans Serge, qui a un bon héritage? Est-ce que, comme Serge, vous êtes tenté de vous confier dans votre héritage? Paul poursuit le témoignage de sa vie, avant sa rencontre avec Christ, en évoquant trois autres aspects qui sont le fruit de ses efforts et la manière dont il a été tenté, en fait, de faire confiance dans sa moralité. Concernant la loi, il était pharisien. Les pharisiens faisaient partie de la branche la plus conservatrice du judaïsme. Ils mettaient un point d'honneur à appliquer la loi jusque dans les moindres détails. Faire partie du clan des pharisiens était donc une marque honorifique. Ça inspirait le respect. D'après l'historien juif Joseph, au 1er siècle, il y avait environ 6000 pharisiens. Ils représentaient donc le gratin religieux, une élite influente à cette époque. Et Paul avait démontré toutes les qualités pour intégrer cette élite. Concernant le zèle, persécuteur de l'Église, l'apôtre Paul a surpassé tous les autres pharisiens dans son zèle. Il n'a pas hésité à persécuter les chrétiens pour faire taire le christianisme, en les pourchassant même au-delà de Jérusalem. Paul pensait sincèrement servir Dieu à ce moment-là, en cherchant à éliminer les chrétiens par tous les moyens possibles. Concernant la justice légale, enfin, Paul peut dire qu'il était irréprochable. L'apôtre Paul ne pouvait pas être accusé d'un quelconque manquement concernant la loi. Alors, cela ne veut pas dire que Paul a toujours observé la loi parfaitement et qu'il était innocent par rapport à cette loi. Mais ça veut dire qu'il a toujours pris soin d'offrir le sacrifice correspondant lorsqu'il allait à l'encontre de cette loi. Est-ce qu'on peut confier notre vie uniquement dans notre bonne moralité, avec une totale confiance? Est-ce que notre bon comportement nous suffit pour vivre une bonne relation avec Dieu? Voilà ce qu'écrit Tim Keller, pasteur à New York, à ce propos. Imaginez une femme, une pauvre veuve, qui a un fils unique. Elle lui apprend comment elle veut qu'il vive. Toujours dire la vérité, travailler dur, aider les pauvres. Elle gagne très peu d'argent, mais avec ses maigres économies, elle parvient à le faire entrer à l'université. Imaginez que ce garçon, une fois diplômé, ne parle presque plus à sa mère. Il lui envoie une carte à Noël, mais il ne lui rend jamais visite. Il ne répond pas à ses coups de téléphone, ni à ses lettres. Il ne lui parle pas, mais il vit comme elle le lui a appris, honnêtement, en travaillant dur et en étant généreux. Dirions-nous que c'est acceptable ? Bien sûr que non ! Ne dirons-nous pas que ce garçon fait quelque chose de condamnable, malgré son bon comportement, car il néglige sa relation avec celle à qui il doit tout ? De la même manière, si Dieu nous a créés, que nous le devons tout et que nous ne vivons pas pour lui, il ne nous suffit pas de bien nous comporter. Nous avons tous une dette que nous devons payer. Connaissez-vous Timothée, qui a une bonne moralité ? Timothée n'a jamais touché une cigarette ni un verre d'alcool. Déjà enfant, on disait de lui qu'il était très sage, capable de rester inculte assis sans dire un mot. Un vrai modèle d'enfant. Ado, il n'a jamais posé un seul souci à ses parents. Toujours très gentil, serviable. Maintenant adulte, il semble toujours su mesurer. Droit, une sorte de gendre idéal. Tout cela donne l'impression à Timothée que finalement, il n'est pas si mal que ça. Plutôt bien. Est-ce que vous vous retrouvez dans Timothée qui a une bonne moralité ? Est-ce que comme Timothée, vous êtes tenté de vous confier dans votre moralité ? Au verset 7, Paul explique les choses suivantes. Si Paul s'était avant confié dans sa religion, son héritage, sa moralité, une rencontre a tout bouleversé dans sa vie, sa rencontre avec Christ. Dans le verset 7, Paul décrit tout simplement sa conversion. Il la décrit sous la forme d'un bilan comptable, avec deux colonnes, perte et gain. D'un côté, Paul énumère tous ses atouts, sa religion, son héritage, sa moralité, etc. Et de l'autre, Christ. Et le bilan qu'il fait le plus simple de toute l'histoire que n'importe quel trésorier, comptable ait pu faire dans toute l'histoire. Pas besoin de sortir la calculatrice, pas besoin de faire de nombreux calculs. Non, c'est très simple. Tous ces atouts ne valent rien par rapport à Christ. Tout ce en quoi Paul avait confié sa vie, tous ses atouts personnels, Paul les avait jusque-là comptabilisés comme des bons points. Ils avaient inscrit dans la colonne « gain ». Mais lorsqu'il a rencontré personnellement Christ sur le chemin de Damas, on retrouve cette histoire en acte 9, vous pourrez retrouver une prédication, on a fait une série de prédications sur les actes, sur ce passage aussi, si vous voulez vous rappeler les choses. Dans acte 9, Paul rencontre Christ sur le chemin de Damas. Ça a été la douche froide pour Paul à ce moment-là. Il a réalisé à ce moment-là qu'il s'était complètement trompé de colonne et que tout ce en quoi il confiait sa vie, tous ses atouts, n'avait en fait aucune valeur. Cela ne pouvait pas le délivrer de son péché et le sauver. C'était même pire que cela. Tout ce en quoi Paul croyait pouvoir se confier l'empêchait de rencontrer Christ. Tous ses atouts ne lui permettaient pas de venir à Christ. C'était plutôt un fardeau qui l'empêchait de venir à Christ. Tous ses atouts qu'il pensait être un gain étaient en réalité des pertes sèches. C'est pour cela que lorsqu'il a rencontré véritablement Christ, il s'est empressé d'effacer tous ses atouts de la colonne gain pour les inscrire dans la colonne perte. Il a tout de suite compris qu'il ne pouvait ajouter aucun de ses atouts en plus de Christ pour être sauvé. Tant que Paul se confiait dans ces choses, il ne pouvait pas être sauvé. Mais une fois sauvé, il a compris que tout cela ne valait rien et qu'au contraire, ses atouts étaient terriblement néfastes, comparables à des boulets aux pieds d'un homme qui l'entraîne dans un abîme sans fond. C'est cela, la conversion. C'est saisir que tout ce en quoi je me confie, tout ce que je crois être des atouts, sont illusoires, et décider de confier toute ma vie en Christ, seulement et uniquement en Christ. Le témoignage de Malcolm Mudred, un journaliste anglais qui a connu une très belle carrière et s'est converti dans la vieillesse, est éloquent à ce propos. Voilà ce qu'il écrit. Je suppose que je peux me considérer comme un homme qui a relativement réussi, ou en tout cas passé pour l'être. Parfois, on me dévisage dans la rue. Ça, c'est être célèbre. Je peux facilement gagner assez pour être admis au plus haut rang de l'Inland Revenu, donc une administration fiscale au Royaume-Uni. Ça, c'est avoir du succès. Avec suffisamment d'argent et un peu de notoriété, même un homme âgé, s'il le désire, peut profiter de dernières distractions. Ça, c'est le plaisir. Il arrive qu'on tienne compte de quelque chose que j'ai dit ou écrit. Ça, c'est l'accomplissement. Et pourtant, je vous dis et je vous supplie de me croire, si on les mettait bout à bout, ils ne représenteraient rien, même moins que rien, un véritable embarras comparé à une gorgée de l'eau vive qu'offre Christ aux assoiffés spirituels, peu importe leur identité ou leur occupation. Que peut offrir cette vie? Je me le demande. Qu'y a-t-il dans la totalité des événements du temps, passé, présent et futur, qui pourrait être comparé au soulagement qu'on trouve en buvant de cette eau? C'est ce que Paul avait réalisé. C'est ce que Malcolm, cet homme, a réalisé. Et j'espère que c'est ce que nous avons chacun réalisé. Paul évoque au verset 7 sa conversion. Mais la conversion n'est jamais une fin en soi. C'est seulement le début d'une vie nouvelle, confiée entièrement à Christ. Et dans les versets qui suivent, du verset 8 au verset 11, Paul nous laisse un programme. Le programme qui devrait suivre toute conversion. Un programme qui est centré entièrement sur Christ. Il s'agit de gagner Christ, au verset 8, d'être trouvé en Christ, au verset 9, et de connaître Christ, au verset 10 et 11. D'abord, gagner Christ, au verset 8. Après avoir évoqué sa conversion, comme on l'a vu donc au verset 7, où il parlait au passé, il disait « je les ai regardés », Paul évoque maintenant sa situation actuelle, au moment où il est en train d'écrire cette lettre aux Philippiens. Il écrit au présent « je considère même, je considère maintenant ». Entre sa conversion et ce moment où il écrit sa lettre aux Philippiens, il s'est passé une trentaine d'années. Paul s'est converti, mais ce qu'il avait commencé à saisir au moment de sa conversion, il l'a pleinement expérimenté maintenant. Et voilà un peu, pour paraphraser le verset 8, ce que dit Paul à ce moment-là. Ce n'est pas seulement à ma conversion que j'ai considéré ces choses comme une perte, mais encore plus maintenant, après une longue réflexion, une longue expérience de la vie chrétienne, je regarde toutes choses encore maintenant, tout ce que le monde pourrait m'offrir, comme une perte. 30 ans après sa conversion, Paul continue toujours de confier sa vie en Christ et rejette tout ce qui pourrait être un obstacle à cela. Son leitmotiv, ce qui est au cœur de sa vie, c'est de gagner Christ. Et pour gagner Christ, Paul continue de renoncer aux valeurs qu'il avait appris à estimer le plus auparavant. Encore maintenant, 30 ans après, il continue de renoncer à sa religion, son héritage, sa moralité, et les considère comme des ordures, de la boue, 30 ans après. Est-ce que c'est la même chose pour nous? Si vous êtes chrétien depuis quelques années, peut-être des dizaines d'années, est-ce que c'est la même chose? Quand quelqu'un se convertit, Christ devient tout pour lui, et plus rien d'autre n'a d'importance. Malheureusement, parfois avec les années passent, et parfois, nos atouts sur lesquels on mettait notre confiance et qu'on a rejeté en bloc au moment de notre conversion reprennent peu à peu de l'importance dans nos vies. Au point qu'on en arrive même à penser « Dieu, t'as pas fait un si mauvais choix que ça en me prenant. » Ça vous est jamais arrivé de penser ça? Finalement, Dieu, t'as plutôt fait un bon choix. C'est une erreur terrible. Que faire dans ce genre de cas? quand ce qu'on avait rejeté à notre conversion reprend plus d'importance dans nos vies et qu'on commence à se reconfier dans ces choses-là. Que faire ? Paul l'explique. La difficulté vient tout simplement de l'attrait que nous pouvons encore avoir par rapport à nos atouts, la fierté que nous pouvons encore mettre dedans. Et pour effacer cet attrait, pour effacer cette fierté, il faut, comme Paul le dit, considérer tout cela comme des ordures, comme de la boue. Pourquoi ? Parce que si on estime une chose comme une ordure, comme de la boue, alors on l'abandonne très facilement. Mais si on la considère comme quelque chose d'important, d'essentiel, on a beaucoup plus de mal à l'abandonner, à relâcher. C'est pour cela qu'il faut sans cesse mettre les choses en perspective, en les comparant à la personne de Christ. Il est tellement plus grand, tellement plus merveilleux, que nos plus beaux atouts deviennent finalement peu de choses, des ordures, de la boue face à Christ, quand on met les choses en perspective, dans la juste perspective. Gagner Christ, être trouvé en Christ. Dans le verset 9, Paul souligne le contraste entre deux justices bien différentes. La justice qui vient de la loi d'abord. S'il était possible d'atteindre cette justice, ce serait une justice purement humaine, soit une norme définie par la loi. C'est une justice qui s'obtient par ses mérites. Ça, c'est la justice qui vient de la loi. Et il y a une autre justice, la justice qui vient de Dieu. C'est une justice divine et pas humaine. Elle n'est pas fondée sur le respect d'une loi, mais sur la foi en Christ. Ce n'est pas quelque chose à faire, mais quelqu'un à croire. C'est une justice qui se reçoit comme un don, comme un cadeau de Dieu. Comme le dit Romains 3, versets 23-24, « Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. » Paul a saisi que sa propre justice humaine ne valait rien devant Dieu. Mais il a voulu être trouvé en Christ, c'est-à-dire bénéficier de la justice de Christ par la foi. Il est déclaré juste par sa foi en Christ. Gagner Christ, être trouvé en Christ, et enfin connaître Christ, au verset 10 et 11. Paul veut bâtir sa vie sur la connaissance de Christ. Et il ne s'agit pas d'une connaissance vague et théorique, fumeuse. Non. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut connaître Christ dans sa mort. Paul dit qu'il est prêt à connaître la communion aux souffrances de Christ en devenant conforme à lui dans sa mort. Paul n'est pas maso ici, mais il explique simplement qu'il est prêt à vivre la persécution pour sa foi et même à donner sa vie si cela peut permettre le progrès de l'Évangile. Hudson Taylor, un célèbre missionnaire du XIXe siècle en Chine, a écrit « En cas de besoin, il faut nous sacrifier nous-mêmes pour la vie du monde. Porter du fruit nécessite de porter la croix. Nous savons comment le Seigneur Jésus a porté du fruit, non seulement en portant sa croix, mais en mourant sur elle. Sommes-nous en communion avec lui en cela ? Il n'y a pas deux Christ, l'un facile à suivre pour des chrétiens avares de leur peine, et l'autre qui souffre et qui endure pour des croyants exceptionnels. Il n'y a qu'un seul Christ. » Voulons-nous demeurer en lui et ainsi porter du fruit ? Est-ce que les propos de Paul et de Hudson Taylor sonnent comme ceux de fanatiques à nos oreilles ? Ou alors, est-ce que ce n'est pas plutôt nous qui sommes devenus trop facilement dans une quête de confort et de facilité notre vie chrétienne ? Il n'y a pas de Christ. Paul veut connaître Christ dans sa mort. Il veut aussi connaître Christ dans sa résurrection. Paul désire par-dessus tout parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Et Paul attendait avec ferveur le retour de Christ, sa résurrection corporelle. Est-ce que c'est ce qui nous habite ? Ou est-ce qu'on est dans ce confort de ce monde à se créer son propre petit paradis ? Est-ce que je suis en attente du retour de Christ et de ma résurrection corporelle pour enfin voir mon Dieu face à face ? En conclusion, Léon et sa religion, Serge et son héritage, Timothée et sa moralité. Je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans ces personnages imaginaires, mais je vais vous évoquer une personne bien réelle. Il s'agit de Stéphane, un sacré âne. Stéphane, ce sacré âne, est un mélange malheureux de Léon, Serge et Timothée. Stéphane, cet âne, a été tenté par le passé, et encore tenté aujourd'hui parfois, de se confier dans sa religion comme Léon, parce qu'après tout, je fais tout comme tout ce que la religion évangélique demande, de se confier dans son héritage comme Serge, parce qu'après tout, j'ai des aïeux qui sont chrétiens depuis bien, bien des générations, de se confier dans sa moralité comme Timothée, parce qu'après tout, je n'ai jamais tué personne. Non. Ma religion, mon héritage, ma moralité ne sont rien devant Dieu. C'est de la boue. Je l'ai compris maintenant il y a plus de 25 ans. Mais je dois sans cesse me le rappeler. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Vous devez vous rappeler de la priorité de Christ dans vos vies, dans nos vies à chacun. Nous avons des luttes, chacun et chacune. Vous luttez peut-être contre la tentation de vous confier dans votre religion, dans votre héritage, dans votre moralité, comme je lutte dans ma vie parfois. Avez-vous pleinement confié votre vie à Christ et uniquement à Christ? Je prie que ce soit le cas pour chacun d'entre nous ce matin. Ayons à cœur de placer notre confiance entièrement et pleinement en Christ. Et pour le faire, pour ce faire, dans nos vies de tous les jours, cherchons toujours à gagner Christ, à être trouvés en Christ, à connaître Christ de plus en plus. Amen.
Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 10h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt !